Voilà, on est aujourd'hui le mardi 5 octobre et le 27 Tishré. On commence le troisième cours qui est le troisième jour d'introduction et le dernier jour d'introduction sur au sujet donc de notre nouvelle étude qui va nous accompagner pendant un très 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 long moment dans ce que l'on pourrait appeler la Torah des prophètes et que j'ai appelé, nommé la Torah de la royauté. Et donc, afin de conclure aujourd'hui, je rappelle ce que j'ai expliqué hier. On est donc arrivé hier à un point important. On avait donc élaboré toute une construction depuis le premier jour de l'introduction, depuis dimanche. On est arrivé hier, lundi, à la mise en évidence des deux dimensions de la Torah, qui sont la Torah de Moshe et la Torah de Josué et de ceux qui vont venir après lui, qui se situe l'une au niveau de ce que l'on pourrait appeler la dimension masculine spirituelle d'Israël, alors que la Torah de Josué est la dimension féminine. On l'a montré, on l'a prouvé hier. Et donc, il est évident que ces deux dimensions ne font qu'une, comme la Torah le dit, l'homme se collera à sa femme et ne fera qu'une seule chair, ce que l'on peut et que l'on doit comprendre à un niveau plus profond, l'homme, c'est-à-dire la dimension masculine de la Torah, qui est la dimension de Moshe, doit se coller à la dimension féminine, qui est la Torah de Josué, pour ne faire qu'un, c'est-à-dire que nous n'avons une Torah entière, une Torah complète, que lorsque les deux dimensions sont réunies, la Torah de Moshe et la Torah de Josué. Dit d'une autre manière, la Torah qui est au-dessus et au-delà de l'espace, et la Torah qui n'est que dans l'espace. L'espace, bien sûr, étant la terre d'Israël. Et là, je m'arrête un petit peu parce que la notion est très importante. Comme je vous l'ai dit, comme nous le savons, depuis 2000 ans, notre peuple n'a connu finalement que la Torah de Moshe, qui est la Torah masculine, parce que nous étions en dehors des frontières de notre terre, en dehors de notre espace essentiel, et donc on ne pouvait capter la lumière divine que par le biais d'un réceptacle qui, dès le départ, a été conçu pour permettre à Israël de se connecter à Dieu au-delà et en dehors de ses frontières. Une fois revenu en Eretz Israël, ou, dit d'une manière beaucoup plus profonde, pour arriver à la délivrance finale, on ne peut pas rester uniquement au niveau de la dimension masculine, il faut qu'on s'unisse à la dimension féminine, qui est la Torah de Josué. L'homme et la femme, le masculin et le féminin, qui ensemble vont être cette unité. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils donnent un enfant. L'enfant, c'est bien sûr l'âme de la délivrance, c'est le Mashiach que nous attendons, c'est cette naissance. Vous savez tous que la génération qui engendre le Mashiach est comparée à une matrice féminine. C'est la raison pour laquelle toutes les perturbations, toutes les difficultés avant la venue du Messie sont comparées par nos maîtres aux douleurs, aux contractions de l'accouchement, ce qui montre bien que l'histoire qui accouche la délivrance est une matrice féminine. Mais pour que cette matrice féminine puisse enfanter, il faut d'abord qu'elle ait été fécondée par une graine masculine. Si on décode ce que je dis, on comprend donc une chose extraordinaire. Nous avons donc, grâce à 3 jours d'explication, la preuve absolue que le Messie ne pouvait et ne pourra jamais en aucun cas se dévoiler totalement et parfaitement en dehors de la terre d'Israël, puisque la dimension féminine de notre peuple, qui correspond à la dimension que révèle Josué, cette dimension, comme nous l'avons expliqué, ne peut se révéler qu'à l'intérieur des frontières d'Israël. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent qu'à partir de Josué, aucun prophète ne peut prophétiser en dehors des frontières de la terre, parce qu'ils sont tous dans la dimension féminine qui est liée à la terre. Puisque donc nos maîtres comparent la venue du Messie à l'accouchement d'une femme, il est donc clair que nous avons la preuve absolue que, contrairement à une certaine légende qui, malheureusement, a poussé combien d'entre nous, par milliers, par millions, et jusqu'à aujourd'hui encore trop parmi nous qui pensent qu'on attend le Messie en dehors de la terre d'Israël et que lui nous ramène en Eretz Israël, cette légende n'est pas seulement une légende, c'est aussi un mensonge, en ce sens qu'il est issu d'une ignorance totale des données fondamentales de notre Torah, puisque pour naître il faut un homme et une femme, il faut donc une femme, et la femme c'est la dimension spirituelle qui ne peut s'incarner et ne se dévoiler que sur la terre d'Israël. Donc le Messie ne se dévoile qu'en Eretz Israël. Maintenant, il est absolument clair que je n'ai rien inventé. Bien sûr que ceci est explicitement dit et écrit, ne serait-ce que dans le Zohar à Kadosh, où Rabbi Shimon Bar Yochai affirme que le Messie se dévoilera dans un premier temps, évidemment, en Eretz Israël, mais il donne même le cadre, l'endroit précis de ce dévoilement, dans le Galil à Elion, dans le nord d'Eretz Israël. Il se dévoilera dans le nord d'Eretz Israël, puis il descendra à Tibériade. À Tibériade, il reconstituera le Sanhédrin, la grande institution, on pourrait dire, dirigeante au niveau de la loi, et tous ensemble, de Tibériade, ils monteront à Jérusalem pour rétablir la royauté d'Israël. Donc, c'est clairement dit, mais d'un autre côté, attention, écoutez-moi bien, une femme, avant de faire naître, de dévoiler l'enfant, elle est d'abord fécondée, et pendant 9 mois, l'enfant est caché dans son corps. Elle est fécondée par un homme. Ce qui veut dire que lorsque l'on dit que le Messie ne peut se dévoiler qu'en Israël, et qu'encore une fois la légende qui nous faisait croire qu'un Messie viendrait en dehors de la terre et nous ramènerait sur son cheval blanc sur notre terre, c'est une légende ou tout simplement de l'ignorance, car le Messie ne peut se dévoiler qu'ici, mais d'un autre côté, la fécondation, la graine vient de la dimension masculine. Or la dimension masculine incarne ou peut incarner aussi la Torah qui est en dehors des frontières d'Israël. Ce qui veut dire qu'il n'est pas faux de penser, je dis le fond de mon allusion, il n'est pas faux de penser, quand je dis pas faux, je préfère dire il est juste de penser, qu'en vérité, le Messie va naître en dehors des frontières d'Israël, va commencer sa construction en dehors des frontières d'Israël, et pendant toute cette époque-là, il est comparé à la semence masculine, mais pour pouvoir se dévoiler définitivement, il a besoin d'une matrice féminine, et sa matrice féminine est bien sûr la dimension spirituelle qui ne se révèle qu'ici, et ici il y a le dévoilement, mais le dévoilement est à bien après que pendant toute une période qui, au niveau d'un être humain, ne dure que 9 mois, mais au niveau d'un processus historique, peut durer quelques décennies, voire même plus, pendant toute la période qu'on pourrait appeler la période de fécondation de la matrice féminine enceinte, pendant, jusqu'à ce qu'elle soit par contre enceinte, le porteur de graines, qui est la dimension masculine, qui n'est donc pas liée à la terre d'Israël, peut donc venir de l'extérieur. Et là aussi, nous avons un texte explicite. Si le Zohar dit d'une manière claire que le Messie ne se dévoile qu'en terre d'Israël, le Talmud lui dit que le Messie se dévoilera aux portes de Rome. Alors comment concilier ces deux textes qui sont apparemment contradictoires? Or nous avons un principe fondamental émis sans la moindre discussion possible par tous les maîtres d'Israël. Tout ce qui touche le domaine de la Haggadah, c'est-à-dire de la pensée juive, il n'y a pas de discussion. Ça veut dire de discussion, pas de discussion, de marloquette, comment traduit-on marloquette en français? Il n'y a pas de divergence fondamentale entre tous les avis exprimés, même s'ils semblent diverger. Or, comment peut-on comprendre que le Talmud dit que le Messie se révèle dans un premier temps aux portes de Rome, qui est en dehors des frontières, aux portes de Rome, comme dit le texte, parce que c'est son dévoilement qui va faire tomber les portes de Rome, avec tout ce que cela comprend et signifie que vous comprenez et que l'on peut comprendre. En tous les cas, son dévoilement est lié à un territoire qui est en dehors de nos frontières, et d'un autre côté, le Zohar dit qu'il se dévoile, oui, à l'intérieur de nos frontières. Alors il n'y a bien sûr pas de contradiction, de divergence, parce que le Talmud, lui, parle du début de son dévoilement, c'est-à-dire dans la période qu'on pourrait appeler la période de la fécondation ou la période de la naissance de la semence qui va finalement féconder et faire naître. Et donc, cette semence-là proviendra de Chutz La'aretz. Ce qui nous permet de dire avec la certitude la plus absolue, et jamais l'histoire ne nous contredira, le Messie ne naîtra pas en Eretz Israël. Ce qui veut donc dire que comme il y a de plus en plus de Juifs qui naissent en Israël, et dans 50 ans la majorité des Juifs pratiquement naîtront en Eretz Israël, il est clair qu'on est très très proche de la délivrance finale. Le Messie ne peut pas naître en Eretz Israël parce que la semence est masculine. Le Messie naîtra, ou est né peut-être déjà, en dehors des frontières d'Israël, mais son dévoilement définitif aux yeux de tous ne se fera qu'en Eretz Israël. On a donc, vous voyez, des applications inimaginables qui se cachent derrière les clés que nous avons construites, exposées, révélées et dévoilées depuis 3 jours. Donc, ça c'est l'application, encore une fois, extrêmement importante qui nous concerne dans notre génération plus que jamais lorsque l'on comprend ce qui se cache derrière ces dimensions masculines et féminines. D'un autre côté, cela veut dire aussi, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de naissance sans homme, c'est-à-dire sans la dimension que je pourrais appeler Chutz La'aretz, en dehors des frontières, cela signifie aussi que la vocation du libérateur est universelle. Parce que si on ne pouvait naître que d'une femme, cela pourrait être impliqué qu'il n'incarnera le Messie que la dimension féminine qui est Israël et les frontières d'Israël. Donc d'une certaine manière, un message libérateur pour nous uniquement. Mais dans la mesure où il est fécondé par un homme qui incarne la dimension en dehors des frontières, cela donc veut bien dire ce que par contre nous savons déjà, que bien qu'il est essentiellement juif et il est le libérateur d'Israël, malgré tout son message concerne l'humanité tout entière. Car comme nous le savons, le Messie sera le premier juif sur terre à être capable de convaincre toutes les nations de l'authenticité et de la nécessité de la Torah de Moïse telle qu'elle a été donnée et non telle qu'on voudrait la transformer. Parce que dans l'histoire, il y a eu d'autres tentatives d'un message venant d'un juif qui se voulait universel, mais le prix à payer pour cet universalisme a été finalement l'abolition, la négation de la Torah du Sinaï. Et c'est clair qu'en ce sens, en ce qui nous concerne, nous, c'est une imposture totale à laquelle jamais nous ne pourrons adhérer. Mais trouver un juif qui est capable de parler de la Torah de Moshe dans toute son authenticité, sans y changer ne serait-ce qu'un cheveu, mais en même temps devenir intéressant jusqu'à convaincant pour l'humanité tout entière, ça c'est le défi que va relever le véritable Messie. Celui que nous attendons depuis fort longtemps et que toute l'humanité finalement attend sans le savoir vraiment. Donc voilà l'application. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on termine cette introduction, malgré tout en faisant un petit peu de texte, puisque bien qu'on est encore dans l'introduction, on va voir ensemble quelque chose d'absolument époustouflant. Au début du livre de Josué, pas tout au début puisqu'on est déjà dans le chapitre 3, et on est déjà dans le chapitre 5, pardon, où, après avoir traversé la frontière, à partir de demain on reviendra un petit peu en arrière, mais j'ai besoin de ce texte-là pour terminer mon introduction, où après déjà avoir traversé la frontière du Jourdain, et donc on est le fameux Dix Nissan, ce fameux jour qui aurait dû être le jour le plus consacré de notre histoire, et qui est passé complètement sous silence, on a parlé sur cette notion déjà, le jour où on a posé notre pied, où la promesse a commencé à se réaliser, ce jour-là donc, il va se passer quelque chose. On va lire 5-6 versets tout de suite, et qu'on va bien sûr commenter. Ba'et Haï, on est donc dans le verset 2 du chapitre 5. Ba'etai Amar Avaye El Yeshua, je vais lire très vite, à ce moment-là, Dieu dit à Yeshua, je lis directement en hébreu, en français, fais-toi, confectionne des centaines, voire même des milliers de petits couperets, le scapel avec lequel on fait la circoncision, et fais la circoncision de tous les enfants d'Israël qui ne sont pas circoncis. Tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Oui. Avant le début de la conquête, tout Israël va être circoncis. On va voir pourquoi. Josué fait ses scapels et circoncis tous les enfants d'Israël, au point qu'il y a tellement de prépuces que là où on les a mis, on a appelé cet endroit-là la colline des prépuces. Ben oui, il y a quand même plusieurs millions de juifs qui sont circoncis le même jour. On ne jette pas le prépuce comme ça, tout est porté à un endroit, ça s'entasse, comme pour nous montrer qu'on parle bien de millions de personnes. Et le texte continue et nous dit, et voilà la raison pour laquelle Josué, Yahushua, a été obligé de recirconcire Israël. Je vois déjà sur certains visages que vous êtes époustouflés, vous venez d'apprendre pour la première fois que les juifs n'étaient pas circoncis, ben oui. Et sauf les Lévites, on va rester au niveau du texte sans rentrer trop dans la tradition. Le texte, déjà en tant que tel, est fondamental. Et donc, pourquoi ils n'étaient pas circoncis ? Parce que seuls ceux qui étaient sortis d'Égypte, dit la Torah, ont été circoncis, comme on le sait, la veille de la sortie, puisque c'était l'une des conditions pour pouvoir faire deux choses, le Corban Pessah, puisque la Torah dit clairement qu'un incirconcis n'a pas le droit de faire l'offrande du Pessah, l'offrande qu'on apporte le jour de la sortie d'Égypte, et en plus, c'était aussi la condition sine qua non pour mériter de faire partie de ceux qui allaient sortir. Or, pendant les 210 ans d'exil, les Juifs ne se circoncisaient plus. Donc, il a fallu les circoncire. Et donc, cela a été circoncis, mais le problème est, c'est que toute cette génération circoncis n'est pas celle qui va rentrer dans le désert, en Israël, puisque cette génération est morte pendant le désert, est morte pendant les 40 ans dans le désert. Et vous me direz, oui, mais c'est pas grave, leurs enfants qui rentrent, eux, ils sont circoncis. Et non, regardez ce que dit le texte. Bien que tous ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient circoncis, ceux qui sont nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Et pourquoi dit le texte ? Parce que puisque pendant 40 ans, ils allaient et erraient d'endroit en endroit dans le désert, et qu'ils étaient dans une situation, on pourrait dire, qui met peut-être en danger un enfant circoncis, parce que dans le désert il fait chaud, il y a le sable, il y a les microbes, et puis on change constamment d'endroit, on n'a pas tout le confort qui permet une telle intervention chirurgicale sur un enfant de 8 jours, c'est pour ça qu'il n'était pas circoncis, et que toute la génération née dans le désert, on parle donc de millions de personnes, toute cette génération a dû être circoncis dès son arrivée en terre d'Israël. Et c'est à eux que Dieu a promis, le texte continue, la terre où coule le lait et le miel. Alors voilà ce que dit le texte. Le Talmud va un petit peu plus loin que le texte, en codant d'une telle manière qu'on se demande si ce texte-là n'a pas été écrit le jour de Pourim. Car quand nos maîtres veulent coder, il n'y a pas comme eux pour coder. Et ils disent, la raison pour laquelle pendant 40 ans on ne pouvait pas circoncire les enfants nés dans le désert, c'est parce que dans le désert du Sinaï, le vent du nord, hein, qui c'est qui chante ça ? J'aimerais. Le vent du nord ne souffle pas. Et donc comme le vent du nord ne souffle pas, le vent du nord est un vent qui est nécessaire pour la cicatrisation du jeune bébé qui vient d'être circoncis. Et donc comme le vent du nord ne souffle pas dans le Sinaï, c'est la raison pour laquelle pendant 40 ans il ne pouvait pas se circoncire. Bravo maître d'Israël, vous avez vraiment le Guinness du codage. Mais maintenant, nous on va décoder. Bien sûr, vous imaginez les tonnes de litres d'encre qui ont été versées pour déchiffrer ce passage complètement obscur. Quoi, pendant 40 ans, les juifs ne se circoncisent pas, alors que c'est la plus grande des mitzvot de la Torah? La seule pour laquelle, quand on ne l'accomplit pas, on est Khayaf Karet, l'âme est retranchée de sa source. C'est la seule mitzvah positive. Il y a des transgressions pour lesquelles, quand on transgresse, on fait ce qu'il ne faut pas faire, l'âme est retranchée. Mais des actions où on nous demande de faire et qu'on ne fait pas, c'est-à-dire on reste inactif, la seule pour laquelle l'âme est retranchée, c'est la circoncision. La circoncision est la première mitzvah donnée à Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, la circoncision est la mitzvah qui fait de nous un juif. Tu n'es pas circoncis, tu n'es pas vraiment encore juif, comme on le sait. On se convertit, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de conversion. La circoncision est la seule mitzvah qui est répétée 13 fois dans toute la Torah. Et 13 fait allusion, comme on le sait, à la valeur numérique de Echad, unité. On ne fait un avec Dieu que si on est circoncis. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Quoi ? 40 ans dans le désert sans circoncire ? Et maintenant, essayons de voir les raisons. Parce que bon, ils se déplaçaient dans le désert et ce n'est pas vraiment l'endroit où on peut circoncire. Alors maintenant, première question, bombe atomique sur cette explication. Mais dites-moi, vous ne vous rappelez pas que Moshe, le libérateur, a failli perdre son fils, le voir mourir devant ses propres yeux, parce que justement, quand il était en chemin pour aller libérer les enfants d'Israël, il ne savait pas s'il peut, oui ou non, circoncire son fils, parce qu'en chemin, ce n'est pas vraiment l'endroit pour. Et Dieu a voulu tuer son fils, et donc finalement l'annuler, le disqualifier lui en tant que libérateur. Si ce n'était la femme de Tzipora qui a compris que la raison de la venue de cet ange destructeur, c'était le fait qu'ils avaient tardé à faire la circoncision. Et pourquoi ils avaient tardé à faire la circoncision? Le texte le dit, parce que dans le désert, ce n'est pas l'endroit pour. Donc Moshe est déjà bien la preuve comme quoi il y a des mitzvot qu'on ne repousse pas. On ne parle pas non plus de danger de mort. Évidemment qu'en cas de danger de mort, on repousse toutes les mitzvot. Là, on parle que ce n'est pas vraiment, on pourrait dire, on n'a pas tout le confort. Et alors, deuxième question, à part celle de Moshe. Mais je ne comprends pas, mais comment faisaient nos pères en Russie sous le régime bolchevique? Comment faisaient nos pères et nos mères, bien sûr, pendant la Shoah? Vous connaissez des enfants non circoncis pendant la Shoah, vous? Non, tous les enfants qu'on pouvait circoncire, on les circoncisait. Dans des caves, sans médecin, sans alcool, sans rien. Avec des couteaux confectionnés avec je ne sais quoi. Et à l'époque des décrets grecs. Mais qu'est-ce que c'est cette folie du texte? On ne circoncit pas quand on est dans le désert. Mais comme, en plus, on va continuer les questions. Tout ça, c'est ce que les commentaires demandent. Mais en plus, dans le désert, on avait tout le confort. C'est un hôtel 5 étoiles. On avait les Anané Kavod, on avait les nuées qui nous protégeaient. La Torah n'arrête pas de dire, c'était le paradis terrestre. Nos habits poussaient avec nous, nos chaussures ne s'usaient pas. La manne tombait du ciel, c'était pas si désert que ça apparemment si on fait confiance au texte. En plus nos maîtres disent que c'est l'une des raisons pour lesquelles les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël et nous ont découragés de quitter le désert car on était si bien dans le ventre de notre mère spirituelle. C'est sûr que quand un enfant naît, il hurle, il est tellement bien à l'intérieur de la prise en charge. Vous avez compris l'allusion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais la question la plus forte, mes amis, mais ça c'est pas Hiroshima, c'est la destruction du monde, sur ce texte-là, ce texte-là est pulvérisé. C'est que, attends, je comprends pas, mais le texte lui-même dit que ceux qui sont sortis d'Égypte se sont circoncis. Et ils se sont circoncis combien d'heures avant de sortir d'Égypte? Une heure avant. Ils tenaient encore la blessure et ils sont sortis d'Égypte pour aller directement dans le désert. Donc le texte même se contredit, puisque toute une génération s'est circoncis au moment où elle sortait d'Égypte pour rentrer dans le désert. Et en plus, ils n'avaient pas du tout le niveau spirituel de ceux qui sont nés dans le désert après le don de la Torah. Et malgré tout, ils se sont circoncis. Alors qu'est-ce qu'on dit maintenant, les pauvres gosses, on ne pouvait pas les circoncire pendant les 40 ans dans le désert. Vous comprenez bien qu'ici, on est en face, on s'est habitué pendant un an à montrer les anomalies qu'il y a dans la Torah de Moshe. Mais alors dans la Torah des prophètes, je vous préviens, quand il y a une anomalie, waouh ! Mais grâce à Dieu, on sait que les anomalies sont là pour nous permettre de découvrir l'indécouvrable sans l'anomalie. Il y a ici un message inimaginable qui se cache et qui va confirmer et terminer l'introduction que nous avons commencée il y a 3 jours. On va essayer de comprendre ensemble le sens de la circoncision. Et on va se rendre compte qu'effectivement, la raison véritable, profonde pour laquelle la génération qui est née dans le désert ne s'est pas circoncise, c'est parce que les 40 ans dans le désert, mes amis, incarnent sur le plan microscopique toute l'histoire juive en exil. Car comme nous le savons, l'exil au milieu des peuples est appelé Midbar à Amim, le désert des peuples. Et comme nous le savons, comme le disent tous les commentaires, toute l'histoire de Moshe et sa génération est le microcosme de toute l'histoire juive qui va suivre, avec ses hauts et avec ses bas. Et donc les 40 ans dans le désert font allusion au fait que le peuple juif ne vivra pas que en Eretz Israël après sa naissance, sortie d'Égypte, mais devra traverser encore de nombreux exils. Et les 40 ans dans le désert, la racine du chiffre 40, c'est 4. Et 4 fait allusion aux 4 exils que nous allons encore traverser après notre naissance, l'exil de Babylonie, l'exil de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Rome, qui correspondent, comme on le sait, aux 4 lettres du nom divin que chacun de ces 4 exils veut voiler. Et donc automatiquement, puisque l'histoire du désert représente l'exil, c'est-à-dire le vécu juif en dehors de ses frontières, c'est pour bien nous faire comprendre cela que la Providence s'est arrangée pour qu'il ne se circoncise pas, pour mieux nous faire comprendre que la circoncision est liée à la dimension appelée la terre d'Israël. Et que si ce n'était la terre d'Israël, la circoncision n'aurait jamais été donnée au peuple juif. La circoncision est le signe qui nous lie à la terre d'Israël. Et la génération qui a été l'incarnation de l'histoire des juifs en exil, cette génération n'a pas été circoncise. Simplement, une fois qu'elle est rentrée en Eretz Israël, elle s'est circoncise. Comme pour nous montrer que pendant les 40 ans dans le désert, il n'y a pas lieu de faire la circoncision. L'exil n'est pas l'endroit de la circoncision. Je parle maintenant au niveau des concepts, bien sûr. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle, j'y viens tout de suite, la génération qui est sortie d'Égypte s'est circoncise, alors que c'était beaucoup plus difficile pour elle de se circoncire que pour celle qui est née dans le désert, parce qu'elle était censée rentrer tout de suite en Eretz Israël. On était censé rentrer en Eretz Israël combien de jours après la sortie? Non. Combien? 3 mois pour recevoir la Torah. Et après, on va dire encore 40 jours pour la faire descendre. Ça fait en gros 5 mois. Et bien on était censé rentrer en Eretz Israël le jour ou le mois où les explorateurs ont été envoyés. Ils ont été envoyés quand? Ils ont été envoyés en fin du mois de Sivan, ils sont revenus le 17 Tammuz. Normalement, ils auraient dû revenir le 17 Tammuz avec de bonnes nouvelles, et ça y est, on serait rentrés. Donc 5 mois plus ou moins entre la sortie d'Égypte et la rentrée. Donc ceux qui sont sortis pour être rentrés. Donc on les a circoncis. Mais ceux qui sont nés dans le désert, qui incarnent la punition de l'exil, j'aime pas le mot punition, mais dans le contexte du cours d'aujourd'hui, ça suffit. Ceux qui incarnent la punition de l'exil, ceux-là ne sont pas circoncis. Comme pour nous montrer quelque chose d'époustouflant. Bien sûr, mes amis, que tous les juifs aujourd'hui se circoncis. Même ceux qui sont nés et sont morts en Houtz la Haaretz. Même ceux qui sont morts dans les ghettos de l'exil. Et qui n'ont jamais vu autre que dans leurs rêves la terre d'Israël. Mais pourquoi ils se sont circoncis tous? Parce que justement, notre vocation est de revenir en Israël. Et comme ce texte va le démontrer et l'autre que je vais rapporter, Dieu a voulu au moins une fois dans l'histoire priver les juifs de la circoncision, comme pour leur montrer voilà à quoi vous ressemblez lorsque vous n'êtes pas sur votre terre. Ce qui veut dire qu'un juif qui n'est pas sur sa terre, même s'il est circoncis, c'est comme s'il n'était pas circoncis. Maintenant, c'est sûr qu'on se circoncit tous aujourd'hui, mais il fallait qu'une fois Dieu nous montre à quoi ressemble un juif en dehors de sa terre. Et comme on vient d'expliquer que la circoncision est la mitzvah de l'identité juive, Et bien cela veut nous dire qu'un juif en dehors de sa terre, c'est comme un homme sans passeport, sans identité. Comment on les appelle ceux qui n'ont pas de passeport et pas de papier? Un apatride. Il n'a pas de passeport, il n'a pas d'identité. Puisque le passeport d'un juif, c'est la circoncision. Vous savez, il y en a deux qui l'ont compris dans l'histoire. Le premier, c'était Yosef. Quand il a vu que ses frères ne voulaient pas le reconnaître, ils hésitaient parce qu'il avait changé. 22 ans s'étaient passés. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il leur a montré qu'il était circoncis. À cette époque-là, il n'y avait que les 12 tribus d'Israël circoncis dans le monde entier. Et là, ils ont commencé à voir comme s'il est circoncis, c'est forcément notre frère. Il y en a d'autres qui ont compris ça beaucoup plus tard. Mais toujours avec le fameux ping-pong entre le bien et le mal. C'était les Allemands, les nazis. Quand ils avaient un doute sur une identité, eh ben, ils descendaient pour voir s'il est circoncis ou non. C'est l'identité du juif, la circoncision. C'est notre véritable passeport qu'on montre avec fierté. Oui, nous sommes circoncis. Oui, nous portons sur nous l'identité de Dieu. Donc en tous les cas, être privé de la circoncision, c'est donc une sacrée punition. C'est pour ça que le Talmud va jusqu'à affirmer, il y a 2000 ans déjà, il fallait le prendre, le relever ce pari, parce qu'eux étaient au tout début de ce que nous avons traversé. Le Talmud affirme que la circoncision est la seule mitzvah qui ne disparaîtra jamais du peuple juif, même chez les juifs les plus renégats, et c'est moi qui rajoute, mais c'est l'esprit du Talmud, qui mange du porc à Kippour. La circoncision ne disparaîtra jamais. Parce que nos maîtres savaient qu'un juif est prêt à renoncer à tout, mais pas à son identité profonde. Et il porte sur lui le dernier maillon qui le rattache à ce qu'il devrait être, la circoncision, sa carte d'identité. Comme un citoyen qui est en colère contre son gouvernement, qui est prêt même à faire la révolution, mais son passeport, il le garde, parce que quoi qu'il en soit, son passeport le rattache à quelque chose qui dépasse ce gouvernement en particulier. On continue. Maintenant, vous allez voir effectivement, dans la Torah de Moshe, après que ce secret époustouflant nous est révélé dans la Torah de Josué, nous allons voir que dans la Torah de Moshe, il y a effectivement une allusion extrêmement claire au fait que la circoncision, qui est l'identité véritable d'Israël, n'est donnée dans le fond et dans l'esprit, n'est donnée qu'à celui qui vit en Eretz Israël, qu'au peuple juif lié à la terre d'Israël. On est dans Parshat Lech Lecha, dans le 17e chapitre du premier livre de la Torah, la première fois que la circoncision est donnée. Et voilà ce qui est dit. Ve'akimoti et beriti beni ou beinecha ou ben zarecha acharecha. Et je veux placer mon alliance entre toi et moi, entre ta descendance et moi, pour une alliance éternelle qui me permettra d'être votre Dieu pour toutes les générations. Je viens de lire le 7e verset du 17e chapitre. Et le 8e verset tout de suite après dit « Venatati lecha ulzarecha acharecha et eretz megurecha » Et grâce à cette alliance, je te donnerai la terre d'Israël. On voit que deux versets se suivent. Lorsque Dieu demande de contracter cette alliance dans la chair, tout de suite, il promet deux choses. Je serai votre Dieu et je vous donnerai cette terre. Évidemment, la liaison entre ces deux notions nous prouve quoi? Qu'il y a un lien entre la révélation du maître du monde comme notre Dieu et la circoncision. Il ne peut se révéler comme notre Dieu que grâce à la circoncision. Et où se fait ce dévoilement? Dans la terre d'Israël. C'est ce que Rashi explique. Regardez ce que Rashi dit. Va'akimoti et beriti, dit Rashi. Et je te donnerai mon alliance. Et Rashi commande pour que l'on comprenne un petit peu mieux. Umaï abrit, et c'est quoi l'alliance? Liot lecha l'Elohim. C'est je te promets d'être ton Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Et Rashi continue à expliquer sur la promesse de recevoir la terre. Vesh ou la chuzatola, mais tu recevras pour toujours la terre. Vesha meye la em l'Elohim. Mais attention, je conditionne mon attachement à vous à un endroit. Sham, là-bas, Je serai votre Dieu. Et rappelez-vous le cours d'hier, vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. Aval ben Israël adar bechutz la aretz. Mais quand un juif vit en dehors de sa terre, et là, Rashi parle au singulier, c'est époustouflant. Rashi ne parle plus au pluriel maintenant. Jusqu'à présent, Rashi parle au pluriel. Vesham eyelahem, je serai votre Dieu là-bas. Et quand Rashi veut expliquer dans quelle situation se trouve un juif en dehors de sa terre, il parle au singulier, comme pour dire ça vise ce que je vais dire chacun d'entre nous. Mais un juif qui vit en dehors de sa terre, kemi she'enlo eloa, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Tant que moi je le dis, on le connaît, Dinovitch. Quand c'est Rashi qui le dit, c'est déjà plus sérieux. Et quand Rashi lui-même ne fait que rapporter le Talmud, il rapporte la référence. Traité Ktuvot, page 111. Et on a expliqué hier qu'en vérité, même le Talmud lui-même, qui est sa référence, c'est le roi David. C'est le roi David qui nous a enseigné par sa propre expérience que dès qu'on sort des frontières, c'est comme si on n'avait pas de Dieu. Alors bien sûr, vous me poserez une question, et je veux donner, voilà, parce que c'est un bon élève, vous devinez ma pensée avant que je l'exprime. Évidemment, la question est évidente, et je vais donner une réponse qui est une fois pour toutes. Et Rashi lui-même, il a vécu en dehors toute sa vie de la terre d'Israël, et pourtant vous pouvez faire un millimètre dans la Torah sans Rashi, mais la réponse est évidente. La réponse est que c'est une question de niveau. Chacun par rapport à ce qu'il est, s'il était en Israël, il serait tellement plus qu'en se regardant rétroactivement, il aurait honte de ce qu'il a été. Bien sûr que Rashi, même à 3, est le plus grand de tous les juifs de l'histoire. Et par rapport à nous, si on doit donner l'exemple d'un juif, c'est lui qu'on va montrer. Mais le même Rashi qui a atteint le niveau qu'il avait à 3, s'il avait vécu à Jérusalem, on n'aurait même pas pu en parler tellement il nous aurait dépassé. Ça veut dire que tout juif, quel qu'il soit, son niveau est bouleversé au point qu'il est sans comparaison aucune entre avant et après. Notre propre expérience, j'espère et je pense pour la plupart d'entre nous, on se rappelle comment qu'on était il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce que cette terre nous a apporté, est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui se souvient de son passé avec regret? Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui, en se rappelant son niveau spirituel avant, n'a pas un petit peu un sentiment de gêne et de honte? Et ça, ce n'est que pour des gens comme nous qui évoluons encore moins vite que la tortue. Mais imaginez-vous un Rashi arrivant à Jérusalem. Imaginez-vous, sa vie a une histoire époustouflante sur Rabbi Nachman de Breslev, qui voulait absolument arriver en Eretz Israël, à une époque où personne ne pouvait même rêver y arriver, parce que toute la Méditerranée était infestée, c'était la guerre entre la Turquie et je crois la Russie ou l'Angleterre, peu importe. Toute la mer était un champ de bataille. En dehors des bateaux de combat, personne ne se trouve sur la mer Méditerranée. Il est arrivé, déjà en soi, pour un juif, se balader comme ça en Ukraine et traverser l'Europe et arriver à Istanbul, puisque on arrive en Israël par Istanbul, c'est déjà en soi se mettre en danger de mort, parce qu'un juif comme ça dans la rue, ce n'est bon que pour être tué et pour lui prendre l'argent qu'il va sans doute avoir avec lui, puisqu'il voyage. Donc déjà, il se met en danger de mort en quittant l'Ukraine pour arriver à Istanbul. En plus, il se met en tête que quoi qu'il en soit, lui, il arrive en Israël. Il est avec son shamash, avec son serviteur, qui s'appelle Rabbi Shimon. Par des moyens plus que miraculeux, il trouve un bateau de fous, de pêcheurs, qui pour de l'argent, et beaucoup d'argent, est prêt à tenter l'impossible. L'impossible est tenté, 100 fois en mer, ils sont presque coulés, mais ils arrivent à Akko. Il descend du bateau, attachez vos ceintures, éteignez vos cigarettes. Il descend du bateau, il marche 2 mètres sur la terre d'Israël, et il dit à son serviteur, on rentre. Son serviteur le regarde comme ça. Il dit, oui, tout ce que je voulais atteindre sur cette terre, je l'ai eu maintenant. en marchant 2 mètres sur cette terre, il a capté toutes les lumières qu'il avait besoin de capter. Il rentre chez lui et il dit à son élève, « Tout ce que tu as écrit de mes enseignements jusqu'à mon voyage, tu le brûles. J'ai honte de ce que j'ai enseigné. » Voilà. Ça, c'est la dimension d'un Rashi qui arrive à Jérusalem. Donc Rashi ne se trompe pas lorsqu'il dit que tout juif par rapport à la terre d'Israël, c'est comme un non-juif, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Parce que tout Rashi que je suis, je sais, et moi je suis un homme honnête, je suis un Rav honnête, et heureusement qu'on a eu des Rashi sur terre, pour être ce qu'ils ont été à Troyes et oser écrire eux-mêmes que c'est comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Parce qu'aller entendre ça au jeu de la bouche d'un maître qui est en dehors de la terre d'Israël. Voilà ce qu'est un vrai maître. Il ne ment pas, il ne joue pas avec la vérité. Il est conscient de sa grandeur, mais il est encore plus conscient de ce qu'il aurait pu être si malheureusement il n'avait pas été un juif appartenant aux générations de l'exil. Voilà. Donc ça, c'est ce que on nous fait comprendre ici. Alors maintenant, on a tout compris. La Torah nous révèle donc clairement que puisque la circoncision est le passeport, l'identité d'un juif, tu n'as le droit de recevoir ce passeport que si tu es à l'endroit où on délivre l'identité d'Israël. L'identité d'Israël n'est qu'à l'intérieur des frontières d'Israël. C'est dur, c'est insupportable à admettre, mais c'est la vérité.
Voilà.
Et donc, Rashi, comme tous les autres, le Baal Shem Tov a voulu monter en Eretz Israël, lui il a été arrêté à Istanbul, il n'a pas pu aller plus loin. Le Gaon de Vilna a voulu monter en Israël, il a été arrêté lui aussi à Istanbul. Des millions de juifs dans l'histoire étaient prêts même à 4 pattes à arriver sur cette terre, ils n'ont pas pu y arriver. Il y a effectivement un décret d'exil qui pèse, qu'on le comprenne ou non, sur le peuple juif. Et aussi, parfois, pour des raisons extrêmement mystérieuses sur les grands d'Israël. Et puisque vous avez évoqué le cas, c'est la raison profonde, mystérieuse et secrète, et la seule raison pour laquelle le Rabbi n'est jamais monté en Eretz Israël. Parce que sur lui pèse le décret qui pèse sur Moshe Rabbeinu. Tu ne peux rentrer qu'en tant que libérateur. Il n'y a aucune raison que mon peuple soit encore en exil et toi tu sois ici. Car toi tu es le cerveau de ce peuple. La tête ne peut pas être dans un endroit et le peuple dans un autre endroit. Le corps dans un autre endroit. Mais ne mettons pas notre nez dans le cerveau des géants d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre. À partir du moment où un juif se trouve dans une situation où le décret d'exil ne pèse pas sur lui, il doit savoir que ce texte le concerne et qu'il devra rendre des comptes de ce que ce texte suggère. À toi de savoir dans quel cas tu te trouves, comme je dis toujours, nous ne jugeons pas X ou Y en particulier. Mais ce que nous disons, c'est que la Torah est incontournable, et que tôt ou tard, chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Pourquoi n'a-t-il pas tenu compte de ce qui lui était demandé ? Personne n'échappe à ça, et moi et vous les premiers par rapport à des millions d'autres choses. Par exemple, notre responsabilité à nous est encore beaucoup plus grande que la leur. Parce que eux, leur responsabilité, pourquoi ils ne viennent pas? Mais nous, notre responsabilité est beaucoup plus grave encore. Et pourquoi tu es là et tu ne fais rien pour faire avancer la délivrance? Car franchement, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer la délivrance? On est trop préoccupé par nos besoins personnels pour s'occuper encore de ceux du bon Dieu. Après tout, il est suffisamment grand pour s'occuper de ses problèmes tout seul. Comprenez? Donc, c'est évident que personne n'échappe à cette accusation globale qui est « Es-tu véritablement à la hauteur du passeport que je t'ai donné ?» J'ai inscrit sur toi le sceau de l'identité d'Israël par le biais de la Brit Mila. Es-tu à la hauteur de cette identité. Maintenant, regardez, ça va tellement loin ce que je dis que ça me rappelle la véritable explication sur le sens de l'acte de Yosef qui apparemment est un petit peu indécent. Il baisse sa culotte pour montrer à ses frères qu'il est circoncis. Je veux dire, bon d'accord, c'est peut-être la seule manière, mais ça ne se fait pas. En plus, pourquoi nos maîtres nous le racontent? Mais en vérité, les commentaires disent que ce que Yosef voulait leur montrer, c'est pas la chair en tant que telle. Parce qu'il, mais il sait que ses frères avaient un regard prophétique sur la réalité. Il a voulu leur montrer qu'il est à la hauteur du signe qu'il porte sur lui, et même après 22 ans d'exil dans l'endroit le plus débauché, le plus corrompu de l'époque. Et quand les frères ont vu qu'effectivement son brite était pure, qu'il ne l'avait jamais souillé, ils ont dit: alors vraiment, on reconnaît qu'on s'est trompé et que tu es vraiment le Yosef devant lequel on doit se prosterner, comme tes rêves nous l'avaient indiqué. Et à l'époque, on ne voulait pas l'accepter. Car un homme arrivé à 17 ans, vendu par ses frères, dans l'endroit où, parce qu'il est beau, fort, intelligent, toutes les filles le veulent, et qu'après il peut montrer son bruit et dire: je n'ai jamais fauté, un homme comme ça mérite effectivement que l'on se prosterne devant lui, c'est-à-dire qu'on reconnaisse qu'il est le plus grand de tous. Ça, c'est ce que Yosef voulait faire en leur montrant justement qu'il était circoncis. Donc on voit effectivement que la circoncision est liée à la terre d'Israël. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement on comprend plus encore. La circoncision est une coupure. Il faut te couper de quelque chose pour mériter cette terre et cette identité. Et tout a commencé par une coupure. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham ? Lech lecha, coupe ! Et quelle est la première mitzvah que Dieu donnera à Abraham ? La circoncision. Mais l'histoire d'Abraham a commencé par une coupure. Il faut que tu sois capable de couper pour pouvoir mériter l'identité d'Israël qui ne se dévoile qu'en terre d'Israël. Alors maintenant, on va continuer et comprendre quelque chose d'époustouflant. Tout ça donc, c'est lié à la dimension de la terre. La dimension de la terre qui est la dimension féminine. On comprend pourquoi c'est lié à la circoncision, puisque la circoncision, c'est ce qui permet à un juif de pouvoir s'unir à une femme juive et de mettre au monde un enfant juif. C'est la condition sine qua non. Pour pouvoir avoir un mariage juif et une famille juive, il faut que le membre qui permet l'union et la famille soit circoncis. Donc ce qui veut dire, dit d'une autre manière, que s'il n'y a pas de féminin, s'il n'y a pas la possibilité d'enfanter et de faire naître, et c'est ce que Josué nous fait comprendre, après tout, la circoncision n'a pas tellement lieu d'être. C'est je parle dans l'esprit. Donc, d'une certaine manière, c'est la femme qui oblige à la circoncision. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand Abraham s'est uni à Agar pour donner Ishmaël, il n'était pas circoncis. Mais Dieu lui dit: mais tu veux un enfant avec Sarah, tu dois être circoncis. Ishmaël est né d'un père non circoncis. Yitzhak est né d'un père circoncis. On voit bien donc que tout dépend de la matrice. Tu es dans le désert, ne te circoncis pas. Tu veux la terre d'Israël, circoncis-toi. Ce qui veut dire que c'est la dimension féminine qui pousse à la circoncision. C'est pour ça que dès que maintenant ils ont traversé le Jourdain, ils sont à nouveau obligés de se circoncire. C'est la dimension féminine juive authentique qui pousse, qui oblige la circoncision. Maintenant, on pourrait donc dire, écoutez-moi bien, que finalement la génération du désert ressemble à un homme sans femme. C'est pour ça qu'elle n'est pas circoncise. Mais regardez maintenant ce que je vais vous dire. Mais le substrat, l'essence du peuple du désert, qui est Moshé, il vivait sans femme. Bien sûr, puisque c'est ça ce que Myriam lui a reproché, pourquoi tu as délaissé Tsipora. Oh, c'est extraordinaire. La Torah du désert, donnée par Moshé, un homme sans femme. Et en plus, à une génération qui ne se circoncit plus. On a tout compris. Regardez comme ça va loin. Tu es en exil. C'est comme si tu étais non circoncis. C'est comme si tu n'étais pas marié. Au niveau des concepts, c'est ce que cela signifie. Maintenant, regardez mes amis ce que je vous ai réservé pour la fin de cette introduction. Ça fait 3 jours que je vous dis que Yahushua est le premier et le cerveau qui incarne la dimension féminine qui va se dévoiler dans tout le Nard. Nevim Ktuvim que j'ai appelé la royauté. Maintenant, regardez, on va lire un petit Rashi. Le petit Rashi, le vignoble de Troyes, qui par son mérite a donné le champagne à la France. Regardez ce que le petit vignoble de Troyes va nous révéler en ce qui concerne l'identité profonde de Josué. Tiens, tout d'un coup, en plein milieu du texte sur la circoncision et la terre d'Israël, il va nous ramener Josué. Incroyable. Comment les maîtres d'Israël ont distribué comme le petit pousset tous les petits cailloux blancs qui nous permettent de retrouver le chemin. C'est sûr, ce n'est pas facile. Ça demande énormément, énormément d'efforts. Mais le chemin est balisé. Les maîtres d'Israël ont laissé les petits cailloux blancs. Merci, petit pousset. Regardez, on est toujours dans mon texte sur la circoncision. Juste avant que Dieu demande la circoncision à Abraham, il lui dit « Je vais changer ton nom et tu vas t'appeler Avraham. » Parce que avant tu t'appelais Avram, tu étais le père.